une question qui mérite toute notre attention. Est-ce que Dieu accorde les mêmes privilèges à ceux qui refusent sa grâce qu'à ceux qui l'ont reçue par la foi en Jésus? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui pourra vous transformer aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, avez-vous remarqué que la majorité des enseignements qu'on a reçus à date dans le livre d'Ézéchiel, s'adresse autant aux croyants qu'aux incroyants? Et je pense que ça va être le cas aujourd'hui, alors que ce livre va répondre aux questions que voici. Sur quoi est-ce que l'espoir des croyants est fondé? Quel est le rôle des sentinelles que Dieu choisit? Qu'est-ce qui est le plus important pour une sentinelle, qu'il obtienne des résultats ou qu'il soit fidèle? Est-ce que le péché peut conduire à la mort physique? Qu'est-ce qui amène un croyant à souffrir? Est-ce que Dieu accorde les mêmes privilèges aux gens qui refusent sa grâce qu'à ceux qui l'ont reçue par la foi en Jésus-Christ? Dieu peut-il retirer ses bénédictions d'un croyant désobéissant? Qu'est-ce qui va arriver aux personnes qui entendent prêcher la parole de Dieu, mais qui ne la mettent pas en pratique? Restez là, le Seigneur a une réponse claire pour chacune de nos questions et il est sur le point de nous enseigner sa parole merveilleuse par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, ta parole est merveilleuse. Tu es merveilleux. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Quelle joie de t'appartenir. Quelle joie de te parler et de savoir que tu entends notre prière. Alors, exauce-nous aujourd'hui. Touche nos cœurs par ta parole, c'est ce qu'on te demande, Seigneur. Ouvre nos cœurs, fais pénétrer ta parole profondément et aide-nous à la pratiquer chaque jour pour ta gloire. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé la section des prophéties au sujet de l'Égypte. Nous avons vu qu'un appui humain, homme ou nation, est toujours décevant. Dieu a condamné l'Égypte pour son orgueil et sa méchanceté, au grand désarroi des nations avec lesquelles elle faisait du commerce et qu'elle s'était alliée. Pendant 2 millénaires, l'Égypte avait toujours été une puissance mondiale. Après sa défaite aux mains de Nebuchadnezzar et après le retour de ses captifs, l'Égypte n'a jamais retrouvé toute sa puissance d'autrefois. Depuis, nous avons parlé du séjour des morts. Celui-ci est formé de 2 parties. Un lieu de tourment pour les méchants et le sein d'Abraham pour les croyants. Jésus a donné ces renseignements lorsqu'il a raconté la parabole du riche et de Lazare. Lorsque Jésus-Christ est monté au ciel, il a amené avec lui les âmes qui se trouvaient dans le sein d'Abraham. L'âme des méchants demeure dans le lieu de tourment jusqu'au jugement dernier, le jugement du grand trône blanc. Ceci nous enseigne que l'esprit continue à vivre après la mort physique. Pharaon a rencontré beaucoup de personnes dans le séjour des morts. Les athées qui croient qu'ils cesseront d'exister après leur mort auront une surprise. Cependant, dans sa bonté, dans son amour, dans sa grâce et sa miséricorde, Dieu nous a donné un moyen de sauver notre âme. Son Fils, Jésus-Christ, a racheté notre âme en mourant pour nous sur la croix. Nous n'avons qu'à nous repentir de nos péchés et à accepter par la foi ce don gratuit de Dieu. Le chapitre 33 débute la dernière section majeure du livre d'Ézéchiel. Les chapitres 33 à 48 révèlent la gloire de Dieu et le règne millénaire à venir. Avec le chapitre 32, nous avons terminé les prédictions concernant les nations environnant Israël. Certaines de ces nations avaient des frontières communes avec Israël et quelques-unes avaient même des liens de sang avec le peuple choisi. Ces prophéties ont été données avant la destruction de Jérusalem. Maintenant, nous abordons la deuxième partie de ce livre prophétique. Il contient les prophéties qu'Ézéchiel a prononcées après la chute de Jérusalem. Ézéchiel va de nouveau prophétiser au sujet de Jérusalem et du pays d'Israël, mais son message sera différent. Jusqu'au chapitre 25, Ézéchiel a annoncé la destruction de la ville. La ville a été détruite selon les prophéties. Maintenant, il va tourner ses regards vers le règne millénaire alors que la gloire du Seigneur sera de nouveau présente sur la terre. Cette section est donc très fascinante. Non seulement est-ce qu'Ézéchiel recevra un nouveau mandat, mais il est félicité pour le bon travail qu'il a accompli jusqu'ici. Désormais, il va s'adresser aux Juifs en captivité, leur affirmant qu'ils doivent vivre en vue d'un bel avenir. Auparavant, ces captifs n'avaient aucun espoir à cause de leurs péchés. Cependant, Ézéchiel voit un espoir pour eux dans l'avenir. L'espoir des croyants est fondé sur la parole de Dieu. Les croyants d'aujourd'hui ont aussi un espoir. Cet espoir n'est pas fondé sur leurs œuvres, sur des théories psychologiques ou sur une philosophie. L'espoir des croyants est fondé sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a annoncé pour l'avenir. La parole de Dieu est ce qui dirige le croyant aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose qu'Israël qui se dirige vers le millénium. Les croyants de l'Église se dirigent vers la nouvelle Jérusalem. C'est ce qui attend les croyants du Nouveau Testament. Chers amis, débutons la lecture d'Ézéchiel chapitre 33, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel tient vraiment à ce que nous soyons conscients qu'il n'enseigne pas des opinions personnelles ou le fruit de ses propres réflexions. Il proclame la parole de Dieu. Celui-ci s'est adressé directement à Ézéchiel. Versets 2 et 3. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Les sentinelles doivent avertir le peuple de Dieu. Dieu revient à la mission qu'il avait confiée à Ézéchiel au début de son ministère. Il compare son prophète à une sentinelle qui veille sur une ville. À cette époque, toutes les villes importantes étaient protégées par des murailles et des sentinelles veillaient sur celles-ci pendant la nuit afin de donner l'alerte si des ennemis tentaient d'envahir la ville pendant la nuit. Pendant sa veille, la sentinelle devait rapporter régulièrement que tout allait bien. Parmi les captifs d'Israël, il y avait des faux prophètes qui rapportaient que tout allait bien alors que Dieu était sur le point de frapper le peuple et Jérusalem. Ces prophètes étaient trop aveugles pour voir le coup venir. Ézéchiel avait été une sentinelle fidèle. Il a averti le peuple au sujet de l'ennemi, au sujet de Babylone. Lisons le verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Le peuple sera jugé et condamné pour son péché, mais la sentinelle qui n'a pas fait son travail devra rendre des comptes. Ézéchiel avait averti le peuple, les faux prophètes l'avaient trompé. Ézéchiel avait fait un bon travail. Verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Ézéchiel s'est acquitté fidèlement de cette mission. Verset 8. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. La responsabilité de la sentinelle, c'est d'avertir les méchants qu'ils seront jugés et condamnés. Ézéchiel a fidèlement donné des avertissements, mais le peuple a refusé de l'écouter. Cependant, la sentinelle devait émettre les avertissements si elle désirait s'en tirer le jour où elle devra rendre des comptes. C'est la fidélité qui compte, non les résultats. Aujourd'hui, l'homme qui prêche l'Évangile n'est pas tenu d'obtenir des résultats. De nombreuses personnes affirment « Trouvons un évangéliste qui obtiendra des conversions ». L'important, ce n'est pas que les gens s'avancent lors d'un appel. Dieu veut premièrement qu'un prédicateur proclame sa parole fidèlement. C'est ce qui est important. Ce n'est pas les gens qui s'avancent qu'il faut regarder, mais ceux qui quittent l'église après le service. Ces personnes ont-elles reçu un avertissement clair? Ceci devrait être notre premier souci. Nous portons nos regards sur le mauvais groupe. Nous disons, un tel a donné une très belle invitation et plusieurs personnes se sont avancées. Personne n'a encore fait profession de foi, mais nous percevons que quelque chose bouge. Mes amis, assurons-nous que ceux qui entendent notre prédication aient été clairement avertis. Si ce n'est pas le cas, le prédicateur devra rendre des comptes à Dieu pour sa négligence. Il devait s'acquitter de son devoir et avertir les gens du jugement à venir. Verset 11 d'Ézéchiel chapitre 33. Dis-leur, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Nous voyons que Dieu ne voulait pas détruire son peuple. Il ne voulait pas le juger. Dieu désire plutôt sauver son peuple, et il les invite avec insistance à se tourner vers lui et d'obtenir la vie éternelle. Verset 17. Les enfants de ton peuple disent, « La voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. » Les enfants d'Israël se plaignaient pour une autre raison. Ils accusaient Dieu d'être injuste parce que celui-ci les jugeait et les condamnait. Parmi les Israélites en captivité, il y avait de bonnes personnes. Ces bonnes personnes subissent le même sort que les méchants. Verset 18. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Le péché peut conduire à la mort physique. Ce verset ne traite pas de la pérennité ou la perpétuité du salut. Ce verset n'affirme pas que nous pouvons perdre notre salut. Dieu dit simplement que si un de ses enfants pêche, il le jugera. C'est aussi ce que l'apôtre Paul dit. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. L'apôtre Jean dit qu'il y a un péché qui conduit à la mort. 1 Jean chapitre 5, verset 16. Il parle d'un enfant de Dieu et il parle de la mort physique. Il arrive que son Dieu rappelle à lui ses enfants qui persévèrent dans le péché. Je suis étonné que tant de personnes, après un certain temps, ne se rendent pas compte que Dieu les discipline. D'autres travaillent dans l'œuvre du Seigneur, mais l'œuvre ne prospère pas et ils s'endettent de plus en plus. Vous penseriez que ces personnes se rendraient compte que Dieu les juge et que ce qu'ils font ne lui plaît pas. Verset 19. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Dieu agit toujours avec justice. Si un méchant se repent, s'il revient à Dieu, celui-ci lui pardonne et l'accueille. Verset 20. Vous dites, « La voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai, chacun selon ses voies, maison d'Israël. » Le chrétien souffre parce qu'il est identifié à la société dans laquelle il vit. Des hommes, craignant Dieu, sont aussi allés en captivité. Ceux qui avaient fait confiance à Dieu ont été conduits à Babylone avec les méchants. Ces personnes se plaignent et elles affirment que Dieu est injuste. Nous expérimentons quelque chose de semblable de diverses façons. Nous faisons partie de notre société et nous souffrons parce que nous sommes identifiés à celle-ci. Par exemple, je ne bois pas et je ne fume pas. Cependant, une partie de mon chèque de paye est remis au gouvernement qui administre et opère des soins de santé pour les alcooliques et les fumeurs. Je dois contribuer à ces services. Le système judiciaire libère un récidiviste de l'alcool au volant, et il peut tuer un enfant d'une famille de croyants alors qu'il conduit en état d'ébriété. Les personnes craignant Dieu ont souffert parce qu'elles étaient identifiées avec leur nation. Cependant, Dieu a dit aussi, « Chacun sera jugé pour ses actions. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. » Autrement dit, je vais juger chacun d'entre vous. Mes amis, qu'importe qui nous sommes, un jour nous comparaîtrons devant Dieu. Le croyant ne sera pas jugé pour déterminer s'il sera sauvé ou non. Jésus-Christ s'est occupé de cette question en mourant pour lui sur la croix. Cependant, il pourra perdre ou recevoir des récompenses. Par contre, si une personne ne connaît pas le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, elle ne pourra rien réclamer de Dieu. Ce sera la perdition éternelle. Dans le Nouveau Testament, nous lisons « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » 1 Pierre chapitre 3, verset 12. Dieu ne dit pas qu'il n'entend pas les prières du méchant, mais il dit qu'il entend celles du juste. Il ne se sent absolument pas obligé d'écouter les prières des non-sauvés. Cependant, si une personne non sauvée implore le Seigneur pour le salut de son âme, le Seigneur entend cette prière et il accueille le pécheur repentant. Il s'est engagé à le faire. Par contre, Dieu ne s'est jamais engagé envers une personne qui rejette sa grâce. Le méchant n'a aucune promesse divine à laquelle s'accrocher, sauf s'il se repent. Lorsqu'un non-croyant demande pourquoi Dieu permet que telle ou telle chose lui arrive, vous savez que Dieu ne lui a jamais fait aucune promesse, et il ne s'est jamais engagé envers lui. Dieu est juste lorsqu'il condamne un monde perdu, et parfois nous oublions que ce monde lui appartient. Verset 21. La 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité. Un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit « La ville a été prise !» Ézéchiel savait déjà que la ville est détruite, car Dieu le lui avait dit le jour même. Cependant, il n'avait pas publié la nouvelle. Le peuple a été abasourdi en apprenant la nouvelle de la destruction de Jérusalem. Il ne croyait pas qu'une telle chose se produirait. Le jour où cette nouvelle est arrivée, la femme d'Ézéchiel est morte, et Dieu a dit, « Ne porte pas le deuil, je veux que le peuple sache que j'ai répudié leur ville. Ils pensent que j'ai besoin de Jérusalem et que je ne peux pas la détruire. Le peuple ne croit pas que je vais châtier le péché, mais je le ferai. Ne porte donc pas le deuil et ne pleure pas pour ta femme disparue. » Dis au peuple que la ville a été détruite à cause de leur péché. Revenons au texte. Lisons le verset 22 d'Ézéchiel chapitre 33. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif, et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. À la fin du chapitre 24, Dieu a annoncé à Ézéchiel la destruction de Jérusalem, la ville sanguinaire. Depuis, il a donné à Ézéchiel des prophéties au sujet des nations voisines d'Israël. Maintenant, Dieu donne des messages au sujet de Jérusalem à son prophète. Versets 23 et 24. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent « Abraham était seul et il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. » Dieu peut retirer ses bénédictions à un croyant désobéissant. Les enfants d'Israël se rappellent que Dieu avait traité une alliance avec Abraham. Puisqu'ils sont nombreux, les Israélites s'attendent à ce que Dieu leur donne la possession du pays. Cependant, ils ne perçoivent pas la grande différence entre eux et Abraham. Celui-ci a cru à Dieu et il a été justifié. Par contre, eux ne croient pas Dieu. Verset 25. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous mangez vos aliments avec du sang. Vous levez les yeux vers vos idoles, vous répandez le sang, et vous posséderiez le pays? Dieu leur dit, « Je ne vous laisse pas occuper le pays. J'en ai sorti les païens lorsque leur péché a atteint son comble, et vous faites aussi pire qu'eux. » Verset 28. « Je réduirai le pays en solitude et en désert. L'orgueil de sa force prendra fin. les montagnes d'Israël seront désolées, personne n'y passera. Ce n'est pas parce que nous portons le nom de Dieu que nous pouvons nous permettre de pécher. Dieu châtie ceux qu'il aime comme des fils, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 6. Il ne se gêne pas d'humilier ses enfants désobéissants. Dieu peut nous retirer un ministère ou des privilèges si nous refusons de le glorifier par une marche chrétienne exemplaire. Verset 30. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui vient de l'Éternel. Le peuple est troublé par la mauvaise nouvelle, mais il parle maintenant d'aller entendre ce qu'Ézéchiel a à dire. Il avait dit vrai en annonçant la destruction de la ville, alors que les faux prophètes avaient menti. Verset 31. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Êtes-vous un auditeur qui ne pratique pas la parole? Le peuple semblait se tourner vers Dieu, mais il n'en était rien. Il voulait entendre ce que Dieu disait, mais il n'avait pas l'intention de lui obéir. Ils sont comme des gens qui aujourd'hui se déplacent pour entendre un prédicateur renommé, mais le message qu'ils entendent ne transforme pas leur vie. Jacques touche ce problème dans son épître. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Citation de Jacques, chapitre 1, verset 22. Dieu dit cela au sujet des Israélites en captivité. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Verset 32 et 33 d'Ézéchiel, chapitre 33. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Maintenant que Jérusalem est tombée, exactement comme l'avait annoncé Ézéchiel, le peuple sait qu'il est un véritable prophète. Cependant, bien que les Israélites sachent qu'ils parlent au nom de Dieu, ils ne sont pas disposés à obéir à la parole divine. Mes amis, l'incrédulité est un choix, non le résultat d'un problème intellectuel avec la parole divine. C'était le problème avec le peuple au temps d'Ézéchiel. Celui-ci voulait bien entendre Ézéchiel prêcher, mais cela ne transformait pas leur vie. Nous aurions pensé que des personnes se seraient tournées vers Dieu, mais cela n'a pas été le cas. Dieu dit à Ézéchiel, « Ne laisse pas cette foule te tromper. Bien qu'elle vienne t'écouter, elle n'est absolument pas disposée à obéir à mes paroles. » Les gens ne mettent pas la parole en pratique. Ils aiment entendre discourir sur l'amour, l'avenir et la prophétie, mais cela n'a pas eu d'effet sur leur vie. Leur cœur est toujours loin de moi. Ézéchiel a été le seul à prédire la chute de Jérusalem. Les faux prophètes annonçaient que cela ne se produirait pas. La nouvelle confirmant la destruction de la ville est arrivée. Tous savent maintenant qu'Ézéchiel est un vrai prophète. Mes amis, vous avez souvent entendu le message de l'Évangile que nous proclamons sur les ondes. Jusqu'ici, avez-vous été un auditeur oublieux, un auditeur non disposé à recevoir le Seigneur Jésus comme sauveur personnel? Vous pouvez changer cela dès maintenant, en obéissant à la parole de Dieu qui vous est proclamée sur les ondes. Oui, Dieu attend de votre part un pas d'obéissance. Un geste fait par la foi. Chers amis, prochaine émission, Ézéchiel, les chapitres 34 à 36. Bonne lecture.
Merci, Régent. J'ai trouvé ça bien encourageant quand tu as dit que l'important pour un évangéliste, c'est qu'il prêche fidèlement la parole de Dieu. Ce n'est pas que les gens s'avancent lorsqu'il fait un appel. Tu as dit que lorsque les personnes quittent l'Église, elles doivent avoir eu un avertissement clair. concernant le jugement à venir. Mes amis, si je trouve ça encourageant, c'est que j'annonce régulièrement la bonne nouvelle, soit en privé ou en public, et je m'assure que les gens entendent clairement ce que Dieu dit au sujet de la vie éternelle, passée dans la présence du Seigneur, ou du châtiment éternel passé sans sa présence. Je tiens à ce que les gens sachent comment recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Et une fois qu'ils savent que c'est uniquement par la foi en Jésus-Christ, ils sont libres d'accepter Jésus comme sauveur ou de le refuser. Parfois, ça fait plusieurs fois que je partage l'Évangile avec une personne de mon entourage, et après quelque temps, je les perds de vue. J'avoue que ça me fait de la peine quand ils n'ont pas encore fait profession de foi, mais je continue à prier pour eux. Et parfois, ils me reviennent, et dans certains cas, ils font finalement le grand pas qui les place sur le chemin de l'éternité avec Dieu. Mais j'ai appris aussi à être joyeuse de simplement partager l'Évangile avec les gens, puisque c'est tout ce que Dieu me demande de faire. Il ne me demande pas de les sauver. Ça, c'est lui qui le fait. Bien sûr, on pourrait dire que c'est la cerise sur le sundae quand on voit une personne venir à Jésus pour recevoir le salut. Mais on sait très bien que c'est entièrement l'œuvre de Dieu qui s'accomplit dans la vie de cette personne et que la gloire en revient uniquement à Dieu le Père qui a donné son Fils et à Jésus qui a donné sa vie et à l'Esprit de Dieu qui a convaincu la personne qu'elle était perdue et avait besoin de ce cadeau merveilleux de la vie éternelle. Et toi, mon ami, as-tu un jour reçu ce beau cadeau de la vie éternelle? Sinon, tu pourrais le recevoir maintenant, en ce moment même. Tu n'as qu'à placer ta confiance en Jésus seul. Mon ami, c'est pour toi personnellement que Jésus est mort sur la croix il y a environ 2000 ans. C'est par amour pour toi qu'il s'est laissé arrêter, flageller, cracher au visage, injurier, couronné d'épines et cloué sur une croix. Et juste avant de mourir, il a dit, « Tout est accompli. Et Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Mon ami, tout est accompli pour que tu puisses entrer au ciel un jour. Tu n'as qu'à te repentir, c'est-à-dire changer de direction à l'égard du péché, et tu n'as qu'à demander à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Aimerais-tu le faire maintenant? Alors je t'invite à faire cette prière avec moi. Dis-le. « Seigneur Jésus, j'admets que je suis un pécheur perdu. J'ai besoin de ton pardon. Je mets mon espoir dans le fait que tu es mort en rançon pour payer la dette de mes péchés. Je crois que toi seul, tu peux sauver mon âme. Je t'invite maintenant à entrer dans ma vie. Je te reçois comme sauveur et Seigneur. Je veux que tu sois mon maître, que désormais ce soit toi qui diriges ma vie. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, donne-moi la vie éternelle. Et merci pour ce beau cadeau. »
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
oui,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu. Du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, GEG-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.